Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir et vous soyez les bienvenus à la causerie au 102.2 sur radiocanu.org comme tous les dimanches soirs. Une causerie qui est toujours en différé par rapport au direct, qui serait en direct, voilà. Et donc c'est une causerie qu'on a enregistrée le vendredi 18 juin 2021 à 18h30, 19h environ, voilà. Et juste quand même pour vous dire qu'elle sera diffusée le jour de mon anniversaire. Donc, bon anniversaire, moi. C'est juste ça. Donc, c'est bon anniversaire à Fab. Mais il y a aussi Jean-Yves.
Avec ton micro, c'est mieux.
Avec ton micro, c'est vachement mieux.
Ah oui, c'est vrai, c'est mieux. Voilà. Bonsoir et joyeux anniversaire à toi en avance.
Oh, merci. Et Clara, que vous avez déjà entendu.
Bonsoir.
Voilà.
Et pas bon anniversaire parce que c'est pas le bon jour.
C'est pas faux.
J'appellerai pendant l'émission pour te souhaiter joyeux anniversaire.
Ah, merci. Ça nous a droit au cœur.
Le truc complètement conceptuel, quoi. Je t'appellerai pendant l'émission qu'on diffusera et que tu seras là à l'antenne. Enfin bon, c'est complètement fou, quoi.
C'est Inception, c'est une émission dans l'émission, un appel dans l'émission qui sera à venir. Enfin, un truc de fou.
Complètement dingue.
Ah, bon. On aura tout fait à la causerie.
Oui, je pense. Mais...
Ah oui.
Donc, d'ailleurs, si vous voulez nous joindre pour dire que cette introduction était beaucoup trop longue, vous pouvez faire lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez nous laisser des commentaires, allez sur le blog à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et là, vous pouvez laisser tous les commentaires que vous voulez et même réécouter les émissions qu'il y avait avant. Et puis, ben, si vous voulez nous trouver sur des trucs de diffusion, streaming, tout ça, vous tapez La Causerie Canu, normalement, vous devriez nous trouver. Et sur un réseau socio-commercial aussi, mais on va pas lui faire de la pub, il en a déjà assez. Voilà, c'est qu'à un moment donné, ça va bien 2 minutes.
Et je voulais juste préciser pour les auditeurs et auditrices qui aiment mon rire, je suis dispo pour les bar mitzvah, les mariages, les baptêmes. Et je loue mon rire.
Alors, on va faire cette petite parenthèse, c'est l'été, hein, c'est pour ça qu'on va faire cette petite parenthèse, c'est que Jean-Yves a souvent comme retour, j'adore ton rire dans l'émission, et il est un peu vexé. Donc, dites-lui qu'il fait aussi des bons sujets.
J'ai un égo, ouais,
mais il faut dire la vérité quand même.
Oh là là, moi je pense effectivement que je vais écrire un commentaire pour dire que cette intro est beaucoup trop longue.
Oui, allez, on y va.
Et donc on va démarrer. Alors ce soir, eh ben, deux sujets dans l'émission et on commence par toi Jean-Yves avec un sujet qui se passe en Europe.
Tout à fait. Ce soir, je vous propose de faire un petit tour en Hongrie, dans la Hongrie de M. Orban et de son parti, le Fidesz, toujours infidèle à leur propagande de soi-disant valeurs, je les cite, chrétiennes traditionnelles pour une nouvelle ère culturelle. Tout un programme, n'est-ce pas?
Ah, voilà. Mais c'est vraiment le nom de leur... Enfin, moi, c'est vraiment leur slogan
Non, ce n'est pas vraiment leur slogan, mais c'est que Orban, justement, a revendiqué cette chrétienté traditionnelle pour une nouvelle ère culturelle. Il y a quand même un beau projet. Hein.
C'est un peu beaucoup flippant.
Un petit peu beaucoup, effectivement. Donc, une des dernières idées hein, de ses amis de parti, dans le cadre d'une prétendue lutte contre la pédocriminalité et pour une prétendue protection des enfants, a été de déposer, jeudi 10 juin, donc il y a un peu plus d'une semaine, des amendements législatifs visant à interdire, je cite, « la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs ». C'est en tout cas un des texte qui a été publié sur les sites du Parlement hongrois. Alors, ces amendements ont été directement dénoncés comme des atteintes à la liberté d'expression et aux intérêts, et en atteinte aussi, des intérêts des enfants LGBT par des assos et des ONG, etc., des droits humains et ou LGBTI. Peut-être utile, hein, avant de continuer un petit peu plus loin, de se rappeler que le gouvernement hongrois oppose régulièrement son veto aux déclarations, par exemple, de l'Union européenne condamnant la Chine et la Russie. Il est donc, j'ai envie de dire, presque logique que le pouvoir hongrois copie ces modèles dictatoriaux et autoritaires que sont les pouvoirs politiques russes et chinois. Et on peut aussi se rappeler, encore une fois, avant de continuer, c'est qu'en décembre dernier, le gouvernement avait déjà interdit de facto l'adoption pour les couples de même sexe et avait inscrit la notion de famille traditionnelle et du genre dans la Constitution.
Alors, donc, ce sont des chrétiens fondamentalistes, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc, je suppose que la famille traditionnelle est celle fondée par Adam et Ève. Donc, c'est Adam avec sa petite fille. Hein, on est bien d'accord, on est sur la famille traditionnelle. Ça doit à peu près se tenir, c'est ça. Enfin, moi, j'ai lu la Bible, mais peut-être je me trompe. Mais il me semble
non, mais tu as une mauvaise lecture, ils te diront. Par contre, la leur avec plein de haine, elle est la bonne.
Non, mais on voit bien quand même ce qu'il y a derrière. Et on voit bien l'absurdité de parler de chrétienté traditionnelle en 2021.
Ah oui, mais pourtant, ils sont si nombreux. Concernant ces nouveaux amendements, la mauvaise nouvelle quand même, c'est qu'ils ont été adoptés il y a quelques jours, mardi 15 juin. Donc, mais je voulais quand même en parler. Et justement, on peut en continuer d'en parler en se demandant effectivement ce que disent finalement ces amendements votés. Alors, comme je vous disais, le Fidesz suit les traces, avec beaucoup de respect, les traces de leurs confrères russes. Et donc, le Fidesz a introduit une loi sur la propagande inédite, sur la propagande qui est inédite en fait pour des pays européens. Oui et non, qui interdit donc, je cite, « la représentation et la promotion d'une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance, le changement de sexe et l'homosexualité dans les écoles et dans les publicités d'intérêt public pour les personnes de moins de 18 ans ». Dans la pratique, ça veut dire les programmes éducatifs ou la publicité, par exemple, aussi, parce que c'est beaucoup ce qui a été cité, de grands groupes solidaires de minorités sexuelles et de genre. On ne va quand même pas oublier que c'est du capitalisme, tout ça. Si demain, ils doivent être pour autre chose, ils seront pour autre chose, ces grandes marques. Mais il y a une célèbre marque de soda, que je ne vais pas citer non plus, qui avait fait une publicité, représentant un couple d'hommes en 2019, et ce qui avait évidemment suscité des appels au boycott. Donc voilà, et c'est ce genre de choses-là, plus ce qu'on peut retrouver dans des programmes éducatifs qui seront donc interdits. Il en sera de même pour les livres, tels que les recueils de contes et de légendes, qui peuvent banaliser l'homosexualité, par exemple.
Il n'y en a pas des masses dans les légendes, donc ça va.
Mais qui, en fait, c'est parce que justement, c'est ce genre de recueil qui avait attiré, encore une fois, la colère du pouvoir à l'automne 2020. Parce qu'à l'époque, on peut le rappeler, le Premier ministre hongrois avait appelé à, je le cite, « laisser les enfants tranquilles ». Voilà, parce que
donc, donc des... Ça veut dire les laisser ignorants, en fait. C'est ça, la notion de la tranquillité.
Pour oui, mais un peuple ignorant, plus jeune c'est, mieux c'est, parce qu'au moins, ils apprendront à jamais se débrouiller sans gouvernant. Hein.
C'est vrai. N'oublions
pas, c'est une règle qui se retrouve à peu près dans tous les États, sans qu'ils soient chrétiens intégristes traditionnels. Et autour de tout ce qui peut être interdit, en fait, selon certaines ONG, en fait, elles pensent que des séries comme, par exemple, Friends, pour les plus vieux, ou des films comme Bridget Jones, encore une fois pour les plus vieux, ou Billy Elliot, en fait, dans lesquels l'homosexualité est évoquée, pourrait éventuellement aussi être interdite aux mineurs. Quoi.
Ou la série qu'on avait présentée, qui s'appelle Sexify, et qui est interdite aux moins de 15 ans, donc à des mineurs, mais qui peut être vue par des ados, et bien là, on ne pourrait pas, parce que, oulala, on montre que l'homosexualité, c'est normal.
Bah oui, mais ça va pas, non? Alors, évidemment, hein, tout cela, comme si, c'est ce que tu disais un petit peu, comme si l'homosexualité, la bisexualité, le fait, d'être transgenre était quelque chose hein, que vous receviez en cadeau à vos 18 ans. Hein, c'est là, à ce moment-là, que ça. Sinon, avant, rien.
Oui, Fab. Mais si, tu sais bien, c'est la fameuse fée de l'homosexualité.
Oui, c'est vrai.
D'un seul coup, à tes 18 ans, apparaît. C'est avec vrai. Une baguette multicolore aux couleurs du rainbow et te tape sur le haut de la tête et dit ah, toi tu seras pédé. Voilà.
C'est vrai.
Et oui, on la connaît tous, on l'a tous croisée une fois dans sa vie. Quoi. Donc,
voilà. Moi je croyais que c'était comme Dieu, c'était un mythe, une légende. Quoi.
A priori non.
C'est ça, mais vu que c'est les mêmes qui croient en Dieu, on est.
C'est
voilà.
C'est le problème.
Donc, hein, c'est ce que je me disais aussi, c'est que en fait, il va quand même falloir en fait, que tous les réactionnaires à la Orban et consorts hein, comprennent, à coup de burin dans le crâne, s'il le faut quand même, parce qu'il faut que ça rentre profondément, que l'orientation sexuelle, l'identité de genre sont des choses tout à fait naturelles. Il n'y a rien de mal à cela, il n'y a rien de super à cela, c'est juste un fait de la vie. Hein voilà, et que ça ne se choisit pas. Mais bon, on a encore beaucoup de travail, je pense, avec Orban et ses copains. Donc voilà. Et évidemment, moi, en fait, c'est. Pardon, oui.
Moi, j'allais dire, moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand même, parce que moi, je vois avec ma sexualité d'inverti total, j'ai un goût inné pour la mode et la déco, hein, et non, ce que n'ont pas les hétéros. Et quand on me connaît, cette phrase vous fera rire. Voilà,
c'est tout. Merci de le préciser parce que j'allais le faire.
Non, mais voilà, mais c'est, en fait, ce qui est fou, c'est que cette loi, elle repose encore une fois sur des clichés,
oui.
Sur encore une fois des choses complètement surréalistes. Et c'est encore l'idée que l'homosexualité se donnerait comme une maladie, ou la transidentité serait aussi un truc, une mode ou je sais pas quoi, comme on peut l'entendre dans la bouche de certains réacs. Voilà, à un moment donné, c'est encore une fois, on en rigole parce que vaut mieux en rire que d'en pleurer tout le temps, mais sinon on pleurerait tous les jours. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a quand même un vrai relent derrière, en plus d'être homophobe et transphobe, c'est des lois qui sont en prime. Ancré dans une forme de patriarcat religieux très fort et on voit vers quoi ça va quoi.
Oui, mais soi-disant les religions sont paix et amour. Évidemment, cette nouvelle attaque, c'est aussi une mise en danger sur la santé mentale. Alors c'est là ce que je vous dis, c'est aussi des infos que j'ai pu retrouver sur des sites LGBTI hongrois. Des textes qu'ils et elles ont pu éditer, et qu'en fait justement cette mise en danger, en fait, c'est parce que en fait, ça va rendre beaucoup plus difficile en fait, le fait de pouvoir participer à l'école ou autre, à des cours d'information, de sensibilisation, de soutien sur la sexualité, contre les préjugés, etc. Donc, on sait très bien, alors je ne crois pas que je le cite après, mais on sait très bien, en Hongrie comme dans plein d'autres endroits, l'homophobie, la transphobie, il faut, en fait, c'est pas de la phobie, c'est de la haine. En fait, je crois qu'il faut qu'on arrête avec ces mots en phobique. C'est de la haine, en fait. Toute cette haine, en fait, sont souvent les causes premières aussi des suicides. Il faut pas l'oublier, en fait. Donc, c'est les personnes qui portent cette haine qui sont les responsables de la mort et du suicide de beaucoup de jeunes LGBTI. Et ça, ça se vérifie aussi, et encore une fois, pas qu'en Hongrie non plus.
Non, mais par contre, plus c'est compliqué, plus on est montré du doigt, et plus ça augmente
bien
cette
sûr.
Pression. On sait par exemple que dans les pays nordiques, scandinaves, ou même maintenant en Espagne ou en France, où c'est... la problématique de ce qu'on est, c'est-à-dire l'identité, a été prise en compte, on sait que ça a fait diminuer les suicides de façon assez, assez flagrante. Et c'est très bien, attention, moi je ne veux pas dire que ce n'est pas bien, oui, voilà, il ne faut pas de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on, dans l'espace public, ça existe, quand, en fait, ça, bah, quand on arrive à 14 ans à se dire bah, « tiens, je crois que j'aime les filles et qu'on est une fille », voilà, on est moins enclin à commencer à avoir une chape de plomb déjà dès le départ. Et surtout, on se dit bah, « ça existe ».
En fait, c'est une forme de banalisation de l'homosexualité, de la transidentité, et que oui, en fait, c'est juste un fait, une donnée, comme d'autres peuvent être hétérosexuels, et c'est tout, c'est pas grave. Hein. Et qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il fallait vers une banalisation de tout ça, sauf qu'effectivement, là, c'est pas du tout que la direction que prend le pouvoir hongrois, et donc ce que vont subir les jeunes LGBTI en Hongrie. Quoi. Et je voudrais quand même le rappeler, hein, c'est n'oublions pas quand même que tout cela est fait sur le dos de la lutte contre la pédocriminalité.
Hein, l'éternel lien.
C'est ça, toujours ce truc hein, des haineux et des haineuses, comme la manif pour tous. Ah tiens, encore des religieux. Tiens, un jour, on va peut-être se poser la question sur le rôle de la religion, tout ça. Enfin bref, d'entretenir cet amalgame dégueulasse, LGBTI égale pédocriminalité, quoi. Et ça, je veux dire, il ne faut pas remonter très loin. La manif pour tous, quand il y a eu les grosses mobilisations, il y avait des affiches qui sous-entendaient ça, qui sous-entendaient que le mariage pour tous, c'était le mariage avec des animaux à venir. Enfin, ça fait partie de ce socle, finalement, idéologique. Et ce qui est intéressant à voir, encore une fois, c'est que ce socle est international. Il est en lien pour tous les réactionnaires et fascisoïdes religieux. Et ça aussi, il faudrait qu'on l'intègre à un moment donné et qu'on arrête de disculper les religions, quel que soit leur nom, parce qu'à un moment donné, il faudra vraiment arrêter de jouer les peureuses et les peureux devant le fait religieux. Quoi. À un moment donné, il faut aussi nommer les choses, en fait. Donc, à ça, il y a eu des réactions. Hein. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a réagi en soulignant que les législations comme celle-ci ne font que renforcer les préjugés et l'homophobie qui sont incompatible avec les valeurs démocratiques. Et il y a aussi une réaction hein, des États-Unis d'Amérique. Bon, voilà. Je veux dire, ouais. On sait aussi qu'en Pologne, il y a une mise en place de zones anti-LGBTI. Bon, les réactions, c'est bien. Ce qui serait, à un moment donné, ce serait des actions plutôt que des réactions, encore une fois. Et voilà, pardon, Fab, tu voulais…
Alors, le problème qu'on a, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut s'appuyer que sur le droit européen et les directives européennes. Et je vous rappelle que les directives sur la liberté individuelle ont été bloquées par la Pologne et la Hongrie, comme l'Europe se fait à l'unanimité. Et que donc, bah, c'est très pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est ils savent qu'ils peuvent gagner du temps. Parce que les gens concernés vont pouvoir porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en se fondant sur le fait qu'une législation ne doit pas entraver la vie libre des Européens, et ça, ils vont pouvoir le faire, sauf que ça va prendre 3, 4 à 5 ans avant qu'il y ait une jurisprudence de la Cour européenne qui permettra en fait d'obliger à ce que ces lois disparaissent. Et en fait, ça, ils le savent, le Fidesz, Orban, tout ça, même les Polonais, ils savent bien que quand ils font des trucs comme ça, ça ne tiendra pas. Mais sauf que ça marche auprès de leur électorat, et ça donne l'impression, en fait, que, bah, comme c'est des anti-européens assez primaires, que voilà, si on n'était pas dans l'Europe, vous voyez, en fait, on pourrait se passer de ça. Alors, il y a une chose, par contre, où il y a eu une réaction, j'ai vu, qui est intéressante, c'est l'argent qui est donné par l'Union européenne sur certaines choses, notamment pour l'école et l'éducation. Et il faut savoir que bah, la Hongrie et la Pologne sont parmi les principaux bénéficiaires de cet argent-là qui est donné, qui est redistribué plutôt. Et en fait, elle est conditionnée au fait que les élèves aient une condition de vie correcte dans les écoles. Et ça va permettre, a priori, de dire bah, non, parce que vous avez fait des lois qui les oppriment. Donc, on va pas financer parce qu'ils sont pas, ils ont pas un cadre d'éducation correct. Et ça, je pense que ça peut, toujours l'argent est le nerf de la guerre, hein, c'est toujours le truc, ça peut jouer, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut espérer que l'Europe joue en disant, attendez, il y a un moment donné, ça va pas. Quoi.
Oh, et puis en même temps, tu peux te dire aussi, finalement, s'ils risquent ça, le pouvoir hongrois, c'est toujours mieux que s'ils n'étaient pas en Europe et que donc ils risqueraient absolument rien.
Tout à fait.
C'était juste souligner quand même qu'il y a eu des réactions, que ce n'est pas non plus un truc qui est passé comme ça et que personne n'a rien dit. C'est toujours essayer de prendre un peu toutes les informations. Donc, je voulais quand même citer, parce que c'est encore une fois, c'est des infos que j'ai cherchées sur un site hongrois et que je trouvais que c'était intéressant de faire ce rappel, c'est qu'avant cette nouvelle attaque contre les LGBTI, il y a une étude en fait, qui datait de 2017 sur l'environnement scolaire en Hongrie, qui décrivait un climat qui n'était déjà pas des meilleurs. Hein. Je vais quand même vous en citer quelques exemples. C'était plus de la moitié des jeunes LGBTI qui se sentaient en danger à l'école en raison de leur orientation sexuelle, 37% en raison de l'expression de leur genre. On a près de deux tiers des étudiants LGBTI qui ont été harcelés verbalement pour leur orientation sexuelle et plus de la moitié pour leur expression de genre. Et on a 13% des LGBTI qui ont subi des violences physiques à l'école en raison de leur orientation sexuelle et 10% en raison de leur identité de genre ou de leur expression de genre. Sans oublier aussi que l'environnement scolaire, finalement, qui est intolérant, c'est ce qu'on disait avant, hein, finalement, qui n'ouvre pas, les horizons, ça a forcément une répercussion aussi et le décrochage scolaire est disproportionné parmi les élèves appartenant aux LGBTI. Donc, ça peut pour certains se dire oui, mais c'est pas grave, mais en fait, si, c'est que ça a une incidence sur plein de choses et que en fait, c'est toujours une négation de gens. En fait, c'est aussi ça le problème, quoi. Donc, voilà. Et c'est ce que je me notais, hein. C'est que vu déjà l'état qu'il y avait, on sait ce que ça va donner et que ça changera forcément ce qui se passe en Hongrie, vu ce que ça a donné en Russie, en Tchétchénie ou en Chine, où il y a une augmentation des incitations à la haine contre les LGBTI. Il y a une impossibilité en fait, de travaux scientifiques sur l'homosexualité et sur l'identité de genre. On a une augmentation forcément de la stigmatisation et de l'invisibilité en fait entourant finalement toutes ces personnes.
Et des violences aussi du coup.
Mais bien évidemment. Et il y a une augmentation évidemment encore une fois folle, ça rejoint ce qu'on disait avant, des taux de suicide en fait quoi. Donc ça va encore faire des morts, ça va encore faire des gens qui vont devoir se cacher, ça va encore, enfin voilà. Voilà. Donc, les ONG hongroises et les assos LGBT ou des droits de l'homme, des droits humains, demandaient évidemment au gouvernement, avant le vote, de retirer les amendements et à l'opposition de ne pas voter pour. Voilà. Et je voulais quand même le souligner aussi, c'est qu'il y a eu plus de 5000 Hongrois et Hongroises qui ont manifesté, en fait, lundi 14 juin à Budapest, contre cette loi, à l'appel d'Amnesty International et d'autres assos. Et voilà, là aussi, il est important, il y a le pouvoir politique et il y a les gens, et un pouvoir politique ne représente jamais tout le monde. Si c'est possible en France, c'est aussi le cas ailleurs. Donc, évitons les grands ensembles, évitons tous ces simplismes finalement qui trahissent une réalité beaucoup plus complexe. Et je voulais quand même souligner ça, c'est que je suis tombé sur ce truc-là. C'est la Hongrie quand même a dépénalisé l'homosexualité dans les années 60.
Oui, tout à fait.
Et que je me disais que l'actualité est une démonstration terrifiante, pour ceux qui peuvent encore en douter, que rien n'est acquis à jamais, que tout peut être reperdu et qu'il faut donc forcément toujours rester vigilant et vigilante, toujours se battre, toujours lutter en fait pour les libertés individuelles, pour les libertés collectives, sexuelles, contre les normes et toute cette morale finalement, parce que là encore une fois, il ne faut pas l'oublier, Hongrie, Pologne et plein d'autres pays, les religions sont au premier plan. Donc là aussi, à un moment donné, le sécularisme ou la laïcité, pour une petite pensée pour les gens qui détestent ce mot-là, qui pensent que ça a été porté par Marine Le Pen, sauf que la laïcité, c'est justement ça, c'est à un moment donné, le religieux, vous pouvez avoir votre foi, par contre, la religion n'est pas un programme politique et elle n'a pas à interférer dans les choix de société qui sont faits, quoi. Donc là aussi, à un moment donné, il va falloir fortement se réveiller, je pense vraiment. Ça fait des années qu'on le dit, hein. Je pense que ça fait 8 ans que la causerie est là, ça fait 8 ans qu'on le dit, mais on... je pense qu'on le dira jusqu'à...
On n'arrêtera pas de le dire.
Oui, c'est ça, on n'arrêtera pas, hein. C'est jusqu'à la fin.
Et, sauf si tout va mieux d'un coup, et là, à ce moment-là, on arrêtera l'émission, on fera des musicales, mais pour l'instant, il y a des trucs à dire.
Ouais. On n'est pas naïfs non plus. Hein. Et voilà, et donc évidemment, en solidarité avec toutes celles et ceux... adultes, enfants, etc., qui subissent les derniers votes du pouvoir politique hongrois. Et juste, quand même, comme ça, pour info, hein, il y a une ambassade de Hongrie à Paris et il y a un vice-consulat à Lyon. Voilà, c'est juste une information parce que c'est toujours utile quand même de savoir, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Alors, moi, j'ai deux petits trucs à dire par rapport à ça, parce que, comme on savait, parce qu'on discute des sujets dont on va parler, donc après, les causeurs et causeuses, on s'intéresse un petit peu à tout ça, donc on gratouille. Alors, moi, d'abord, je vous invite à aller voir les photos de la manifestation qu'il y a eu en Hongrie et les 5000 personnes qui étaient dans la rue, parce que vous verrez ce que c'est qu'une Pride festive et revendicative. Voilà. Et notamment, je vous invite à regarder la superbe photo d'une drag queen entièrement habillée de blanc qui se lève au-dessus de la foule pour faire un doigt d'honneur magnifique au gouvernement hongrois. Donc voilà. Et ça, juste parce qu'il y avait une vraie beauté dans tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est aussi ça, la lutte. C'est aussi la beauté, la fraternité, la sororité et tout ça. Et c'est les moments où on est ensemble et que même... voilà, c'est important de le voir. Et la deuxième chose, c'est, moi, je voulais réagir à la réaction qu'a eue une députée du Parlement européen française. Alors, je ne la nommerai pas parce qu'elle m'a beaucoup énervé. Elle est à la France insoumise, donc vous vous débrouillerez avec eux. Mais elle a gentiment dit, mais les Hongrois, ils ont le droit, c'est l'espace Schengen, et les Hongrois LGBT peuvent aller ailleurs. Alors oui, c'est facile à dire, sauf que les Hongrois LGBT, comme tous les gens LGBT, ne sont pas tous riches. Déjà, alors ça sous-entendait qu'ils pouvaient tous se barrer, ils étaient tous riches, ce qui n'est pas vrai. Et puis, ce n'est pas facile de changer de pays. Et puis, pourquoi ils auraient à changer de pays ? Vous voyez, c'est un petit peu le truc d'un seul coup qui se met en place, du truc. Quoi. Et j'ai trouvé cette réflexion alors, à courte vue, c'est-à-dire qu'au lieu de dire on pourrait monter, par exemple, que temporairement, on puisse les protéger ailleurs, évidemment, ça, il n'y a aucun souci, mais là, les inviter en fait, à déménager et à partir. Mais je me suis dit, mais non, d'abord, un, quitter pour dire un truc pareil, et deux, mais c'est en plus véhiculer des vieux clichés à la con que les personnes LGBT seraient toutes riches, pourraient toutes voyager comme elles le veulent, et alors surtout quand tu es mineur, va te barrer de ton pays. Quoi. Et ce genre de réflexion-là, à courte vue, qui sont purement électoralistes pour dire, regardez, j'ai dit un truc sur les conditions, bah, faut arrêter parce que ça les aide pas non plus. Et je trouve qu'à un moment donné, bah, allons au bout du truc, c'est que non, ils ont leur légitimité où ils sont, ils ont le droit de vivre où ils sont, et le problème, c'est le pouvoir en place, et c'est ce que ce pouvoir-là porte, c'est pas autre chose. Et je pense que, voilà, évitons de prendre des contournements pour pas se fâcher en disant, oh bah oui, mais ils peuvent se déplacer. J'ai trouvé ça profondément.
C'est hallucinant, quoi.
J'ai trouvé ça mais profondément idiot. Je me suis dit, mais c'est, on en est encore là, quoi.
C'est bah et dire, puis c'est toujours enfin... cette logique de faire reposer sur les victimes. Elle va conseiller quoi aux femmes victimes de violence, aux victimes
elles ont
de
déménager, enfin tu vois,
c'est complètement dingue, quoi. Et ça, non, c'est gauche, quoi. Putain.
Et en fait, je trouve que à force de faire de la simplification par des espèces de slogans faciles comme ça, ben en fait, on dessert complètement les choses, parce que oui, le problème est complexe, et évidemment. Mais je pense que la première chose qu'on peut faire déjà, c'est aider les associations LGBT hongroises. Oui. Ne serait-ce que financièrement, parce qu'on a le droit en Europe de financer aussi. Voilà, on a tous la même monnaie en plus, donc voilà, enfin quasiment. Donc du coup, bah, allons-y, aidons-les financièrement aussi, parce qu'elles vont avoir besoin de thunes pour pouvoir payer des avocats, des choses comme ça. Oui. Allons au bout des choses et arrêtons de leur dire, mais barrez-vous, quoi. C'est surréaliste. Et j'imaginais si, dans l'autre sens, on avait, par malheur, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France, que la seule réponse que nous donneraient les copains de l'autre côté des frontières, c'est de nous dire bah, « vous n'avez qu'à vous déménager ». Non mais, je trouve ça, mais j'ai trouvé ça hallucinant. Par contre, ça m'a beaucoup énervé, je pense que ça se sent. Mais ça démontre à quel point la récupération politique, c'est vraiment naze.
C'est voilà. Ça, c'est ça. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Et c'est pour ça que je rappelais hein, les adresses du consulat et du vice-consulat, enfin de l'ambassade et du vice-consulat. Il y a aussi des possibilités de faire des choses.
Tout à fait.
On écoute de la musique.
Oui.
Allez, allons-y. À tout de suite.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin, Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les bastons de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre, tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites. Quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer. Desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
T'as le souffle court,
respire.
Quand rien n'est facile,
respire.
Même si tu te perds,
respire.
Et si tout empire, espère.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et à la causerie. Oh là là. Et dans la causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter, pardon, on vient de s'écouter Gaël Faye avec le titre Respire. Et ouais. C'est donc Fab qui prend la suite.
Mais je ne suis pas sûr qu'on va bien respirer avec la suite, mais on va y aller.
C'était un peu l'idée du texte, je crois, de la chanson. C'était, voilà, reprenons une petite respiration et on y retourne.
Et on y retourne.
Allez.
Alors, bon, je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Lors d'un déplacement le 9 juin dernier, le président de tous les Français, comme on dit, hein, parce que c'est comme ça qu'on dit, s'est pris un soufflet par un réactionnaire royaliste d'extrême droite au son de « Montjoie, Saint-Denis, à bas la Macronie ». Alors, il ne l'a pas dit comme ça parce qu'il n'avait pas de panache, le monsieur, mais ce n'est pas grave. Bon, ça reste que c'est un mec d'extrême droite. Hein. Si l'image peut nous faire sourire, le fond politique de celui qui lance la main a de quoi nous faire un peu froid dans le dos quand même. Hein. Ces relents de vieille France, rance, malsaine, cette envie d'une monarchie et le racisme latent de ses positions sont nauséabondes à souhait. Donc, il n'est pas dans ma vocation ce soir de faire
l'apologie
de ce brave homme que je conchis par ailleurs. Donc, ce n'est pas là-dessus que je vais revenir, mais c'est sur la suite qui a été donnée à tout ça. L'homme est donc immédiatement arrêté, ainsi que son complice qui filmait. Vous le savez, dans le cas de coups et blessures, surtout sur les femmes, les procédures sont très longues en France. Ce n'est pas une nouveauté, on en a déjà parlé dans la causerie. Mais là, c'est le président qui a été touché. Répétez après moi. Président. Voilà, vous l'avez
bien en tête. Président, oui.
Ah, vous l'avez bien en tête.
Oui.
Et donc, quand on touche au président, c'est toute la République que l'on baffe, paraît-il. Bon, moi, je n'ai rien senti. Mais voilà, mais il paraît que c'est toute la République.
C'est un peu excessif, non ?
Légèrement, mais ça, c'est
c'est la République.
Ça. Donc voilà, je n'ai pas non plus. Du coup, là, la police est extrêmement rapide. 24 heures d'enquête hein, pour démontrer le caractère dangereux et honteux de la personne. Ouais, parce que c'est une honte. C'est ce qu'on nous met en avant dans tous les JT, tout ça. On dit son geste est honteux. Enfin, non, son geste, il est violent, il est politique, il est ce que vous voulez, mais il n'est pas honteux. Enfin, voilà. Et la justice se saisit immédiatement, en comparution immédiate, hein, pour condamner ce brave homme, hein, enfin ces braves hommes. Donc, c'est que pour avoir frappé un représentant de la République, l'homme risque quand même 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est quand même que c'est important, un président, hein, vous voyez.
Ah, ouais, ils savent que quelques-uns se sont fait dézinguer dans le passé, alors bon, ils se…
Bah ouais, ils ont un peu blindé le truc. Et donc… 18 mois de prison avec sursis, 18 mois de prison, donc 14 avec sursis, ont été prononcés contre cet homme qui a voilà, envoyé une claque. Alors, soyons clairs, je ne suis toujours pas un fan de la prison, personnellement, au contraire, et je trouve quand même énorme une telle peine pour un petit soufflet sur la joue d'un mec, hein, quand même, parce qu'on ne va pas non plus déconner, si vous regardez les images, d'ailleurs, ce mec en question, qui est quand même président de la République, bah, il était prêt de passer en mode fight Mike Tyson. Hein. C'était un seul coup, là, ouhou, il était chaud, hein, parce qu'on sent bien que sous cette carapace de sourire et de gentillesse, il y a un Mike Tyson qui sommeille chez Macron, quand même. Hein. Donc voilà, il faut le savoir. Alors, je vais quand même faire un petit comparatif. Alors, bah, nous, à la causerie, hein, il nous est venu à l'idée de se poser la question de la notion de violence dans la société, de comment on percevait, on voyait la violence. Et on s'est souvenu que quand même, depuis des années, nous dénonçons dans l'émission bien des violences subies et surtout par les femmes. Donc quand même, je pense que si vous nous écoutez depuis un certain temps, vous savez qu'on n'est pas des fanatiques de la violence, on serait même plutôt là pour la combattre. Alors, vous vous doutez bien que nous avons eu envie de comparer la vitesse et la punition d'État entre le fait de mettre une gifle à un président et de tabasser sa compagne ou ex-compagne. Parce qu'on s'est dit que finalement, c'était comparable quelque part. Bah oui. Bah ouais, parce qu'on est comme ça à la causerie, nous on aime les faits. Alors allons-y. Alors on va déjà rappeler un fait qui peut paraître assez étonnant, mais qui est: la plupart des auteurs de violences sur une femme ne sont pas emmerdés par les forces de l'ordre. Voilà, ils sont rarement arrêtés, la garde à vue n'est pas la norme, et surtout, dans la plupart des cas, ils ne sont même pas mis sous contrôle judiciaire ni éloignés de leurs victimes. Je vous rappelle donc hein, que là, il a fallu quelques heures à peine pour la police pour éloigner la personne et aller la mettre en prison. Et c'est le truc, quoi. Même si quoi qu'on pense de la prison, mais en tout cas, l'acte d'éloignement était là. Souvenons-nous que le président Giflet avait fait, avec sa ministre Marlène Schiappa, de la cause des femmes une grande cause nationale. Voilà. Et donc, ont été mis en place des mesures, enfin des mesurettes plutôt, hein, parce qu'on ne va pas parler de mesures. Par exemple, la mise en place de téléphones d'urgence, vous savez, les fameux qu'on peut donner aux femmes qui subissent des coups. Dans un communiqué, le Premier ministre a annoncé qu'il sera mis à disposition des juridictions 3000 téléphones grave danger d'ici début 2022. Je vous laisse déjà juger du temps qu'il faut pour acheter un téléphone en France. Le dispositif n'est pas nouveau. Il s'agit là, en fait, d'une augmentation de 65% de leur nombre par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Alors, ces outils ont fait la preuve de leur efficacité, assure l'exécutif à travers la voix du Premier ministre. 1324 terminaux sont actuellement actifs pour protéger autant de femmes sur plus de 1800 disponibles. Alors, on va déjà être clair, c'est déjà étrange, il y a 1800 téléphones disponibles, on n'en a distribué que 1324. Je vais se demander comment ça se fait. Alors, ça peut paraître comme ça beaucoup, mais les associations de victimes, elles rappellent que, compte tenu du nombre de femmes battues et en danger de mort en France, c'est au moins 10 000 portables d'urgence qu'il faudrait. 10 000, pas 3 000. Peut-être que Marlène Schiappa ou Jean Castex, ils ont des problèmes d'audition, alors on va le redire. 10 000 Parce que, je sais pas,
oui, peut-être faudrait déjà qu'ils nous écoutent. Mais...
Ouais, ils feraient bien.
Et puis, non, mais alors, et en plus, tu te dis, attends, pour en avoir 1 700 supplémentaires, il leur faut donc plus de 6 mois.
C'est ça.
Donc, t'imagines, s'il leur en fallait 8 300 supplémentaires, je pense que ça serait d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi.
Alors, je me suis renseigné quand même, ces dispositifs de grave danger, c'est exactement la même chose que vous achetez pour vos grands-parents quand ils tombent. C'est-à-dire, c'est un bouton d'appel d'urgence. Et donc, en fait, c'est la même chose que ce qu'on appelle les colliers de survie qu'on met sur les personnes âgées. Alors, j'ai quand même regardé, hein, par curiosité. Il faut savoir quand même que ça coûte 139 euros. Voilà. Donc, je ne suis pas persuadé que ça… Enfin, après, il y a un abonnement, certes, mais c'est 139 euros l'outil. Donc, je pense qu'ils doivent pouvoir arriver à… Ben, voilà. Alors, oui ?
Non, vas-y.
Alors, à Matignon, hein, l'idée, c'est le renforcement du recours au bracelet anti-rapprochement aussi. Alors, un petit rappel, hein, depuis décembre dernier, il y a 1000 bracelets qui sont à disposition des magistrats. Hein, donc, décembre dernier, ça nous fait 6 mois quand même. Hein. Au 8 juin, les juges ont prononcé le port de 147 bracelets. Hein, donc je redis, hein, il y a donc 1000 bracelets disponibles. Les juges ont prononcé 147 bracelets, dont seulement 96 sont actifs. Et là, vous allez me dire, bah, c'est étonnant quand même, il devrait être 147 actifs. Ah, ben bah non. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a un problème de technique. C'est-à-dire qu'on a acheté des bracelets qui ne sont pas compatibles avec les outils existants aujourd'hui. Oui, on est très, très bon en France. Je pense que là, de ce côté-là, on peut se faire confiance. Voilà. Je ne sais pas si on a donné ça. Voilà. Et la raison, en fait, qui est invoquée, donc, c'est qu'il y a des problèmes techniques et que les bracelets sont d'une technologie dépassée et que les outils de traçage ne sont pas mis à jour et qu'en fait, il n'y a personne pour suivre les outils de traçage. Donc, en gros, on nous parle d'une mesure qui, de toute façon, n'est ni applicable techniquement, ni applicable humainement, parce qu'on ne met pas le personnel nécessaire pour suivre les gens qui ne devraient pas s'approcher des femmes que, potentiellement, ils veulent tuer quand même. Hein. On va le rappeler, c'est de ça dont on parle.
Hein. Ouais, c'est toujours cette différence entre mots politiques et moyens. Quoi.
C'est ça, il n'y a aucun moyen qui est mis, c'est ça. Alors, les armes à feu, on le sait, sont utilisées dans la majorité des féminicides à domicile. Alors, c'est armes à feu ou armes de poing, dites donc couteaux de combat, des choses comme ça. Puis après, il y a les couteaux de cuisine, évidemment, hein, mais bon. Du coup, le Premier ministre, il a annoncé le renforcement législatif du contrôle de la détention et de l'acquisition des armes, notamment en élargissant le périmètre du fichier national. Là, ça a l'air bien comme ça sur le papier. Il oublie juste de rappeler que dans bien des cas et dans bien des féminicides, il s'agit d'armes de chasse. Mmh. Eh oui. Et que, eh ben, que rien ne changera parce qu'il n'est pas prévu de revoir la législation sur le fait d'avoir une arme pour chasser. Voilà, donc ça s'appelle juste un coup d'épée dans l'eau ou une annonce politicienne qui ne sert à rien. Et comme, oui.
Ah non, rien, non, c'est, je validais la deuxième.
D'accord. Et comme toujours, la promesse est faite de créer un énième fichier des auteurs de violences avec un volet spécifique sur les violences dites conjugales et le partage dudit fichier entre les services. Alors ça, ça ne coûte rien. Et surtout, les fichiers qui existent déjà dans plein d'autres cas ont démontré leurs limites et surtout le risque d'erreur. Ils sont souvent mal remplis. Souvent, on y met à l'intérieur aussi bien les victimes que les auteurs de faits. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, tous ces fichiers-là, en fait, ne fonctionnaient pas. Je vous renvoie au fameux fichier des violeurs où avait été fait un audit, où avait été démontré qu'étaient entrées à l'intérieur du fichier aussi les victimes de viol. Donc, c'est-à-dire que, ouais, oui, et parce que bah, les flics ne savaient pas le remplir et que ça partait dans tous les sens. Voilà. Bon, et, on le voit, oui.
Non, et je me disais, en fait, une des dernières, mais la femme qui a été tuée par balle et immolée, etc., des services étaient au courant, elle avait rencontré des assos. Sauf qu'en fait, oui, tu peux avoir 15 000 fichiers, sauf que s'il n'y a aucune communication entre différentes choses, tu peux avoir autant de fichiers que tu veux.
Surtout que ce qui manque dans tout ça, la première chose, et j'y reviendrai après, c'est des lieux où les femmes puissent être mises en sécurité.
Oui.
Vous voyez, c'était déjà ça le premier problème. Donc, on le voit, hein, là où la personne présidentielle est largement surprotégée, hein, que ce soit physiquement, parce que vous avez déjà vu un déplacement présidentiel, ou aussi par la loi, parce que finalement, il a des lois d'exception qui le protègent plus que les simples citoyens. Par rapport aux femmes, finalement, dans ce pays, bah, on voit bien qu'il y a une disparité énorme. Mais au-delà de ça, on voit que la logique est aux mesurettes et pas aux réels moyens. Les moyens, voilà. Plusieurs associations féministes réclament un plan d'1 milliard d'euros, comme le préconise le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je vous rassure, hein, le plan Chiapas, c'est 12 millions. On y est presque.
C'est ridicule.
On y est presque, je veux dire. Il n'y a pas de problème. 100 fois moins, ça devrait suffire, non ? Voilà, bon. Donc, il y a une féministe qui dit « Avec cet argent, on pourrait alors mettre en place des dispositifs d'accompagnement des victimes en créant notamment davantage de places d'hébergement ou des postes d'intervenants sociaux qui les accompagnent. Il faudrait pouvoir former des agents de sécurité et des sensibilités à ce problème pour qu'ils puissent protéger ces femmes. » Oui, parce qu'après tout, le président, il est protégé par des agents de sécurité, donc on pourrait aussi faire ça pour des femmes qui potentiellement pourraient être tuées par leur mari, vous voyez, voilà, ou par leur ex. Donc c'est Fabienne El Khoury, qui est porte-parole d'Oser le féminisme, qui faisait cette remarque. Et comme le faisait remarquer Léna, qui est la fondatrice de Nous Toutes à Amiens, trop de plaintes sont encore refusées ou classées sans suite. 80% des plaintes selon le HCE, hein, donc le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 80% des plaintes sont sans suite. C'est énorme, hein, je veux dire, voilà. On répète que la parole des femmes doit se libérer, mais à quoi bon parler quand leurs plaintes ne font l'objet d'aucun suivi ? C'est Léna hein, qui pose la question. Oui, oui, vous avez bien entendu. Dans 80% des cas, ces plaintes ne sont même pas prises en compte. Voilà. Et quand elles le sont, seules 50% des plaintes retenues arriveront devant la justice. Vous voyez, donc on part de 20%, il reste 10%. Hein.
C'est ça.
Et sur ces fameux 10%, moins de 5% des auteurs sont condamnés à un éloignement de leur victime. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où on va aller condamner, et c'est ce que disait une féministe, elle disait, les dommages et intérêts, c'est quelque chose de bien, parce que ça reconnaît effectivement qu'il y a eu un acte, mais ce n'est pas ce qui protège la victime si vous laissez l'auteur pouvoir être à moins de 20 ou 30 km de sa potentielle victime. Et souvent, il y a de la récidive. Ce n'est pas rare, en fait. Donc, elle disait, on voit bien qu'on ne prend pas en compte le vrai problème, le cœur du problème. Alors, pour mémoire, hein, alors qu'elle a créé des juridictions spécifiques pour traiter du terrorisme, de la presse ou même des atteintes aux agents de l'État, hein, la France refuse toujours de créer une juridiction spécifique dédiée aux crimes et délits contre les femmes ou dans le cadre d'un délit dit conjugal. Voilà. Parce qu'en fait, ça existe en Espagne, par exemple, et ça a démontré son efficacité. Parce qu'en réalité, les peines qui sont les plus prononcées en Espagne, ce n'est pas des peines financières, c'est des peines d'éloignement. Et des moyens sont mis pour que les femmes puissent s'éloigner des gens qui les frappent, ou les hommes, ben, y en a aussi qui sont frappés. Oui.
Je me demande même si d'ailleurs en Espagne n'est pas instauré le fait de ne pas éloigner la victime, mais d'éloigner l'agresseur en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'en Espagne, on peut par exemple payer un appartement un an à l'agresseur pour lui dire vous avez un an pour vous intégrer dans une ville qui se trouve à 230 km de votre victime, et puis c'est pas grave, c'est comme ça.
Non, mais parce que là aussi, en fait, en éloignant la victime, en fait, c'est dire à la victime bon, maintenant, il faut que tu tires un trait sur ton appart, ta baraque, les souvenirs, enfin, et puis tout ce que tu as avec potentiellement des enfants ou autre, et il faut que tu recommences, quoi. C'est une double peine, voire une triple peine. Enfin, c'est absolument horrible, quoi.
Et dans le fameux plan Schiappa, en prime, rien n'est mis en place en direction des jeunes. Parce que comme le dit la porte-parole d'Oser le Féminisme, dans une autre interview, il faut prendre le mal à la source et en parler dans les écoles, parce qu'on a besoin en fait, d'éducation en fait, à un moment donné à tout ça. Et c'est… je me suis trompé, c'est Léna, qui est donc la personne de nous toutes, qui disait, pardon, j'ai mélangé mes deux interviews.
C'est pas grave.
Voilà. Et elle le dit, comme on le fait finalement avec la sécurité routière, il faut pouvoir sensibiliser les plus jeunes sur cette question. Ben, après tout, c'est vrai. Je veux dire, si on est capable de dire, eh ben, la sécurité routière, c'est pour votre bien, ben, en fait, apprendre le consentement et le fait qu'on ne tape pas sur la personne qui vit avec soi, on ne tape pas sur la personne qu'on est censé aimer, ben, en fait, oui, il faut que ça soit dit aussi à l'école, il faut que la sensibilisation. Et puis aussi, comment parler, comment, à qui en parler et mettre en place des moyens, effectivement. Alors qu'à l'école, hein, on va vous apprendre, je vous rassure, que le président, la République et tout ça, c'est hyper méga important. Voilà.
Ben oui.
Oh, et comme le rappellent toutes les associations féministes, on parle bien des violences et pas seulement des féminicides, hein, qui sont seulement la partie immergée de l'iceberg, enfin émergée, je crois, celle qu'on voit, je ne sais plus comment on dit. Donc, prendre, comme le fait M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, le nombre de femmes tuées en disant « en 2020, il a baissé, donc c'est que ce qu'on fait, c'est efficace », c'est complètement idiot, parce que d'abord, les féminicides, ils ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qu'il y a des années où il y en a un peu moins, des années où il y en a plus, et on ne va pas quand même pas se mettre à souhaiter que l'année prochaine, il y en ait plus pour prouver qu'ils aient tort. Hein. Et puis surtout, c'est laisser entendre quand même que quelque chose comme la violence permanente, quotidienne, le fait de rabaisser les gens, le fait de les frapper tous les jours, ça
physique,
serait acceptable.
Physique et psychologique, hein, voilà. Parce que c'est…
Oui, tant que les gens meurent pas, tout va bien.
Voyez, oui, c'est ça.
C'est juste fou quand même. Et donc, je rappellerai la phrase de Marlène Schiappa hein, qui disait aux côtés de M. Darmanin, parce que vous savez que maintenant ils sont main dans la main, l'ambitieux plan mis en place par notre gouvernement fonctionne. Et ben encore une fois, c'est illusoire. Et pour prendre une phrase que je trouvais pas mal, ça reviendrait à dire que la torture reste acceptable tant qu'elle ne mène pas à la mort.
C'est
voilà.
Ça.
Donc oui, on peut le dire, en France, on protège bien plus l'image présidentielle que les femmes victimes, que les victimes de violences conjugales. On protège bien plus les institutions que les citoyennes et les citoyens pour parler comme un républicain de base. Et le vomi aux lèvres, là, que vous, je sais hein, que vous m'écoutez, vous écoutez la causerie, qu'il y a un peu de vomi au fond de votre bouche, mais ça va passer, prenez un verre d'eau, il ne s'arrête pas là. Alors que son gouvernement n'a pas fait grand-chose pour les femmes, voilà que Emmanuel Macron, président des Français, hein, on dit, se met à relativiser sa claque reçue par ces mots. Alors accrochez-vous, parce que ça fait mal. La vraie violence, c'est celle que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons. Alors là, j'ai envie de dire, c'était sur BFM en plus, hein, j'aurais bien fait sa chaîne. Hein. Le propre d'un homme ou d'une femme politique, c'est de ne pas manquer d'air. Mais là, on peut quand même dire qu'il alimente toutes les éoliennes de France en quelques mots. Hein. C'est quand même un truc... Voilà, le cynisme sans limite. Le monsieur, il est président depuis 4 ans. C'est lui qui fait qu'il n'y a pas de budget. Et c'est lui qui fait qu'il n'y a pas de moyens. Donc, balancer cette phrase-là, mais c'est d'une indécence, mais sans borne. Quoi. Je ne sais pas, voilà. Bref, vous l'aurez compris, moi, je n'arrive pas à comprendre que l'image d'un président qui se prend un petit soufflet sur les joues, parce que regardez les images, ce n'est pas une grosse claque qui se prend, c'est un petit soufflet, soit vue comme plus importante que la mort de centaines de femmes sous les coups depuis des années. Et il est largement temps, je crois, dans les médias et ailleurs, de revoir nos priorités. Voilà.
Ouais. Et dans les têtes de chacun et de chacune. Et, ce que disait une des féministes que tu citais, cette notion aussi éducative, elle est absolument primordiale. S'il faut agir évidemment sur les urgences et sur les besoins des personnes en danger, etc., et il est absolument aussi primordial d'aborder ça sur le plan scolaire. Scolaire, d'apprentissage, tout ce que vous voudrez. Mais oui, en fait, quoi, une société de respect, d'égalité et tout ça, de consentement, de tout ça et de non-propriété de l'autre, tout ça, en fait, ça s'apprend, en fait. Hein.
Mais ça passe aussi par l'éducation populaire. Mais bien sûr. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces sujets-là, on les met sous le tapis, qu'on ne veut pas en parler et qu'on va ramener les gens à des choses qui sont, à mon avis, plutôt secondaires. Comme par exemple parler à tout prix des élections, de comment ça marche à des enfants de 6 ans, je ne suis pas persuadé que ce soit hyper important. Par contre, ça viendra après hein, pour l'importance ou pas des choses. Et par contre, je trouve que par exemple, expliquer le consentement à des enfants de 6 ans serait une bonne idée.
Mais oui, c'est surtout que, mais en plus, mais t'imagines, en fait, ça aborderait toutes les violences, en fait. Ouais, parce que c'est aussi apprendre aux enfants que. Qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de dénoncer des choses, ça serait absolument, je pense, sur plein de plans, absolument primordial, quoi. Sauf que là, non, en fait. Et en même temps, par contre, on arrive à foutre 40 milliards pour l'armée en 3 ans, on arrive à foutre des milliards pour des banques, on arrive à foutre des milliards pour les frontières, la guerre et tout ce bordel. Par contre, on n'arrive pas à foutre des milliards pour la vie de centaines de personnes quand même, on est quand même c'est ça, c'est
moi je voudrais juste dire par exemple que finalement récupérer 1 milliard, ça reviendrait à taxer la fortune des plus riches en France de 0,03%, voilà, 0,03, et j'ai pas mis un zéro de trop, donc vous voyez, c'est pas une grosse somme, c'est facile à trouver, et franchement allons-y quoi, mais mettons les moyens vraiment. Mais c'est pareil pour plein d'autres trucs, mais là il y a une vraie indécence, et j'ai trouvé personnellement la phrase d'Emmanuel Macron, mais alors c'est vraiment, c'est craché à la gueule des victimes, quoi. Il n'y a pas d'autre mot.
Ouais, en même temps, certains ou certaines te diront, ouais, mais quand même, tu vois, il a dit que le vrai danger, c'était pas ce qui lui arrivait à lui, tu vois.
Ouais, mais c'est le sens en politique, on connaît quand même.
En tout cas, on a pu apporter un petit peu de réflexion autour de justement aussi la pratique verbale des politiciens et des politiciennes. C'est aussi à ça que, c'est bien si on a pu servir aussi un petit peu à ça.
Des fois, hein. Alors, on fait un peu de musique.
Allez, on y va.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes? Qu'on lui foute jamais la paix. Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idéaux un peu macho, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes, leur seule raison, toujours sa garde.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et on vient de s'écouter Mathilde and Friends avec Le corps des femmes. C'est un titre que j'ai découvert, mais alors totalement par hasard, mais que j'ai trouvé vraiment très très bien. Donc voilà, bah, je l'ai passé du coup. Et si vous aimez, bah, vous cherchez Mathilde and Friends sur Internet et vous allez la trouver et pouvoir écouter d'autres morceaux. Voilà.
Voilà, et ben, et je ben, crois...
on arrive à la fin.
Ben oui, je crois bien, ouais. Hein, on est presque dans les temps.
Ah bah, juste dire que demain c'est la fête de la musique et qu'à Lyon ça durera un mois, donc voilà, moi j'ai pas le programme, vous cherchez et c'est plus mon problème. Et dire aussi qu'en ce moment il y a, bon bah, c'est le vôtre hein, parce que vous allez voir ce que vous voulez,
donc demain hier en fait,
hein,
non demain.
Demain, la, quel demain,
non, demain, la, le 21.
Le 21. Ok, oui.
Et oh là là, Clara, elle suit non. pas. Elle suit et pas.
C'était bien demain. C'était bien
demain. Le vrai demain.
Du moment où ça passe, tu vois. C'est la fin d'inception, tout ça. Ouais. Voilà, donc demain, lundi 21, c'est la fête de la musique. Ouais. Voilà. Et rappelez aussi qu'il y a quelques rassemblements en ce moment en soutien. À droite, à gauche, vous pouvez les retrouver sur Rebellion et c'est des rassemblements en soutien à diverses causes. Mais voilà, mais il n'y a plus grand chose qui se passe. Malheureusement, on arrive à l'été. Donc, comme d'habitude, entre juillet, août et septembre, il faut croire que la Terre s'arrête de tourner en France. Mais ce n'est pas grave, c'est une habitude.
Voilà. C'est ça. Et si je voulais juste rappeler qu'il y a le festival de théâtre Basse-Cour. Oui. On a pu voir Cédric Danielo qu'on a eu en invité dernièrement dans la causerie. On a pu voir sa pièce, donc évidemment on invite toutes celles et ceux qui vont, admettons, au Festival d'Avignon, courez voir son spectacle.
Ah, vraiment. Oui.
Et je voulais juste préciser que ce festival donc Basse-Cour a lieu dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, si je ne me trompe,
ouais,
pas,
c'est ça.
À Lyon, c'est gratos, en tout cas les représentations sont gratuites, donc vous pouvez y aller. Même si vous n'avez pas les moyens, vous avez un accès à la culture, donc profitez-en, allez-y, vraiment, c'est super bien foutu, c'est dans un cadre vraiment super sympa.
Et donc, pour filer voilà. un coup de main, prenez un petit cornet de frites, c'est pas très cher, voilà. mais ça fait un coup de main à la compagnie.
C'est ça, voilà. c'est ça. Et, ben,
et
donc, voilà.
juste rappeler que la pièce, elle s'appelle « Telle est la question ».
De Cédric Danielo, effectivement.
Voilà. Oui.
C'est
voilà.
ça. Et ben voilà, on a sûrement dépassé l'heure, Clara oui. va bientôt nous engueuler, mais c'est pas grave.
C'est pas mon genre.
Et la semaine prochaine,
oui,
ce sera l'allégresse dans la causerie. Vous comprendrez en écoutant. Voilà.
Waouh, il est trop trop bon lui. Et ben, je crois que on se quitte là. Clara, tu as peut-être quelque chose à dire aux auditeurs, aux auditrices.
Ben, je vais annoncer le titre. C'est déjà pas mal, non?
Ah, mais bah oui.
Ah non, mais attends, moi je visais que ça. Hein.
D'accord, ok.
J'espère plus, mais je suis réaliste.
Bon, eh bien, on se quitte avec le titre de Kaleo qui s'appelle Way Down We Go.
Way Down We Go. Et je chante très mal.
Oui, alors.
Ouais, restez après, ça sera vraiment mieux.
Ce sera vachement mieux.
Voilà.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous souhaite bon courage pour celle à venir. Et puis, bon, on vous fait des bisous.
Des bisous. À bientôt.
Ciao.
Ciao, ciao.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go.
Fall, and they will run you down, down to you.
down we go. So we're down we go. Way down we go.